Moi, je suis Ninon Duhamel, je suis administratrice de production à la Condition publique, chargée des arts visuels et des résidences d'artistes. J'ai été invitée par la Condition publique et la Fondation EDF à rejoindre le commissariat collectif de l'exposition Fake News, qui a eu un premier chapitre, une première version en 2020 et 2021 à la Fondation EDF à Paris. Et là, il s'agissait de créer un deuxième chapitre de l'exposition, une version 2 en quelque sorte, donc qui s'appelle Art, Fiction, Mensonge, et avec des nouvelles œuvres. Donc là, il y a 8 nouveaux artistes dans l'exposition qu'on propose à la Condition publique.
J'imagine que pendant cette période-là, durant ce temps, il y a eu beaucoup d'imagination pour créer des fake news, que le monde a été arrosé, inondé, et les spectateurs virtuels sur Internet ou autres ont été abreuvés de choses, certaines auxquelles peut-être ils ont cru, et puis d'autres qu'ils ont réussi un peu à démonter, mais ce n'est pas aussi simple.
Oui, ben, en fait, la première exposition en 2020-2021 donc, a vu le jour pendant la période du Covid. Et c'était vraiment flagrant à l'époque de voir à quel point l'actualité du Covid et la notion de fake news étaient hyper corrélées. À la fois parce qu'une fake news, c'est un peu comme un virus qui se propage très, très facilement entre les gens et sur le monde, mais aussi parce que le sujet même du Covid et le sujet médical et sociétal et politique a été très très prisé pour créer de la fausse information, que ça soit par des politiques, que par des médecins et par des équipes de scientifiques dans le monde entier.
Donc il arrive un moment où les gens s'en rendent compte et se sentent dupés, et après qu'ils perdent un peu la confiance, justement. Les médecins ont sans doute beaucoup perdu de leur superbe d'une certaine manière. Les politiques ne sont pas ressortis beaucoup grandis par cette affaire. Est-ce que l'exposition traite un petit peu aussi des conséquences de ces fake news ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'au final, on finit par, quand on prend conscience que tout est faux ou qu'on a été berné ou utilisé ou qu'on est tombé dans le panneau, on finit par être désillusionné un peu de tout et donc à ne même plus s'intéresser à l'actualité, à avoir une forme de tristesse ou de désillusion par rapport à tout ça. Ce qui n'est pas forcément bon non plus parce qu'il s'agit en fait d'essayer d'avoir un regard critique et de retrouver son libre arbitre, son pouvoir de jugement par rapport à l'histoire et à l'actualité. Ce que propose un peu cette exposition, à la fin il y a un troisième chapitre qui est dédié à ça, sur quel remède on peut avoir et quels questionnements on peut se poser. Quels réflexes, quels outils on peut utiliser. Il y a des sites qui existent avec des équipes de journalistes qui fact-check, donc qui vérifient un peu les fausses informations. Sur Arte notamment et à Libération, il y a des équipes de journalistes qui sont dédiées à ça. Et donc on peut leur envoyer en continu. Quand on a une information dont on doute ou qu'on ne sait pas comment juger, on peut vérifier avec eux et eux se chargent de la décortiquer et de nous montrer les ressorts, ce qui s'est passé derrière.
Bon, moi, j'ai essayé, ils ne m'ont pas répondu pour information. Mais au-delà de ça, bon, j'imagine quand même que dans leur mission, obligation aussi, d'une certaine manière, dans le service public, il est important qu'ils fassent un peu la part des choses. Pour autant, est-ce que les gens, à force d'avoir été isolés pendant la période Covid, est-ce qu'ils ne sont pas dans le désir de vivre dans des rêves ou dans autre chose que la réalité qui est la leur ou qu'on leur propose?
Oui, je pense que ça aussi, ça, c'est une façon de s'évader. D'une part, quand on est désillusionné, d'autre part, quand la réalité est difficile. D'être immergé tout le temps par l'information et par l'actualité qui est finalement pas très drôle et pas très rose, on finit par avoir envie de couper tous les écrans, toutes les radios, toutes les télés, et donc de plonger dans la fiction, et notamment par exemple plonger dans une œuvre d'art, de la littérature, un film, une série ou des œuvres plastiques, donc des expositions, des musées. C'est aussi une façon d'aller dans la fiction, mais tout en s'intéressant à l'actualité. C'est-à-dire que pour moi, l'art est une façon de pouvoir aborder le réel, mais de biais, en prenant un pas de côté, mais une façon de pouvoir élaborer les choses autrement, de façon moins frontale, et pouvoir un peu peut-être sublimer notre rapport au quotidien qui peut être un peu brutal par moment.
Et est-ce que la réalité actuellement a encore un sens, à part dans les rues, dans les manifs ?
Oui, je pense que le mot réalité a un sens, mais il faut prendre conscience qu'il existe des réalités et pas une réalité, je pense. D'autre part, peut-être oui qu'on peut s'interroger sur ce phénomène actuel mondial, dans plein de cultures et plein de pays différents, où une nouvelle génération de personnes a tendance à s'isoler via les réseaux sociaux aussi, via l'Internet, via les jeux vidéo en ligne connectés, etc. Toutes ces nouvelles technologies qui permettent du coup aux jeunes de rester chez eux tout en vivant socialement quelque chose, mais une nouvelle façon d'interaction sociétale, c'est pas forcément mauvais, mais peut-être qu'il faut s'interroger sur ce que ça signifie et quels sont les enjeux de ces nouvelles socialités, on va dire, ces nouvelles façons de faire. Peut-être que nos politiques, nos représentants politiques peuvent aussi s'interroger sur ces nouvelles façons de faire et de penser de la jeune génération pour mieux accueillir ces pratiques-là et aussi comprendre un mal-être qui pourrait être lié à les difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est-à-dire qu'on a du mal à aller travailler parce que c'est dur, parce qu'on a du mal à aller à l'école parce que l'école ne correspond plus dans les modes d'apprentissage aux réalités qu'on doit rencontrer. Donc voilà, peut-être s'interroger aussi sur nos façons de faire, nos façons de vivre, et pas forcément les juger, mais se dire, voilà, il se produit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on vit avec ça ?
Alors, on vit un moment un peu particulier, c'est la guerre en Ukraine. Il y a eu souvent des guerres un peu partout, en Irak, etc., où on présentait des images qui n'étaient pas forcément la réalité ou qui étaient triées pour être présentées au public, peut-être aussi mettre le public dans une idéologie d'une certaine manière. Là, on voit très bien un plateau où on filme un lieu qui est détruit. L'angle, la façon de filmer peut faire imaginez que c'est une réalité, or c'est vraiment une caméra et derrière un plan, etc.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu plusieurs créations de fake news aussi depuis le début de la guerre en Ukraine. Et je pense aussi qu'il y a un phénomène hyper important en Russie à observer, qui est la fin de tous les médias indépendants. Donc ce qui donne le champ libre à la création de fausses informations, pas forcément de fake news, mais justement juste fausses actualités, faux médias. La façon dont on parle de la guerre qui se passe en Ukraine n'a pas du tout le même vocabulaire, pas du tout la même image, pas du tout la même façon d'en parler. Donc ça, c'est déjà une façon de manipuler la réalité et de manipuler la population. Et c'est extrêmement dangereux puisque c'est comme ça qu'arrivent toutes les autocraties et les dictatures. L'histoire nous l'a appris, mais finalement, on continue quand même à laisser le champ libre à ça. Donc, en avoir connaissance et en avoir conscience de ce phénomène, c'est ce qui permet à tout un chacun, chaque individu, chaque sujet, de pouvoir avoir une résistance en lui-même et avoir un libre arbitre et savoir que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous montre n'est peut-être pas forcément le réel.
C'est pas très simple parce qu'il y a des spécialistes de la fabrique du consentement aussi. Conditionner les gens, les préparer à quelque chose qui est d'une certaine manière, pour être complotiste, prévu à être mis en action et préparer le public à admettre des choses, on ne sait pas lesquelles, puisque a priori, nous ne sommes pas tous maîtres du jeu.
Tout à fait, je pense que c'est une question, pour moi, qui n'a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un débat puisque pour moi c'est le travail des politiciens et des politiciennes de nous orienter vers telle ou telle direction, puisque ce sont nos représentants, ils peuvent nous proposer des choses, mais en même temps jusqu'à où ça s'arrête, leur pouvoir d'action, leur pouvoir de proposition, et jusqu'à où nous on peut avoir un pouvoir aussi de réflexion, de critique, de co-construction de ce genre de choses. Donc je pense que les deux sont bons et peuvent coexister, mais peut-être que ce serait mieux d'aller vers du compromis plutôt que du consentement. Enfin, moi j'entends pas forcément le forçage dans le consentement. Pour moi, un consentement c'est quand tout le monde est d'accord, mais en tout cas il est important de, en amont, de d'élucider les choses ensemble.
Voilà, donc la diversité des médias, c'est important, bien sûr. On est là aussi pour, pas équilibrer forcément, mais pour amener une pierre à l'édifice de l'information, de la compréhension. C'est important de comprendre en plus d'être informé.
Oui, et de pouvoir justement se renseigner auprès de diverses sources et de voir qui dit quoi, qui a quel avis, et ensuite pouvoir se construire son propre, sa propre opinion soi-même, donc individuelle et avec un libre arbitre. Pour moi, c'est ça l'éducation aux médias, c'est ça aussi le fait de grandir et de, pour un jeune, un enfant, puis un adolescent, puis quelqu'un qui devient adulte, peut réussir à se faire son propre avis, et puis aussi tout au long de la vie, hein, on peut changer justement continuellement en prenant un peu à droite, à gauche différents types de paroles, et tout est toujours mouvant, donc c'est important de garder la pluralité.
Voilà, donc cette exposition à la condition publique, on peut la retrouver jusque quand, et est-ce qu'il y a des animations spécifiques, des temps forts dont on pourrait peut-être parler?
Alors, donc l'exposition est ouverte jusqu'au 17 juillet et il y aura plusieurs temps d'activation qui seront proposés en parallèle, un peu en satellite de l'exposition, puisqu'il y a un des artistes de l'exposition qui a été en résidence chez nous pendant quelques temps, qui a co-créé, co-imaginé avec le Labo 148, qui est une partie de la condition publique, qui regroupe plusieurs jeunes autour de l'éducation aux médias et la création de médias. Et donc, ensemble, cet artiste-là et les jeunes du Labo 148 ont déjà créé plusieurs installations plastiques qu'on peut voir à la condition publique aussi. Et plusieurs moments d'activation seront proposés une fois par mois tout au long de la saison jusqu'à juillet. Et donc, il y aura plusieurs fois des tables rondes avec différents invités, à chaque fois sur une thématique différente. Des invités qui viendront discuter, débattre d'une thématique qui lie souvent la question des médias avec la question de la politique, du politique, et comment il y a un pouvoir qui se joue autour de ça.
Alors, est-ce qu'il faut réserver ou c'est ouvert aux heures qu'on peut peut-être préciser ?
C'est ouvert de façon gratuite pour tout public. Souvent, donc, ces moments-là d'activation seront suivis d'un DJ set et d'un moment plutôt festif, ouvert à tous. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux où on publie très régulièrement des actualités. Et puis, il y aura évidemment notre grand festival estival qui s'appelle Pile au rendez-vous, durant lequel on activera plusieurs choses aussi liées à la thématique des fake news.